franceinter.fr.
Les nano et les microparticules des tatouages colorés voyagent dans le corps et s'y accumulent. C'est une étude franco-allemande qui le démontre pour la première fois et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Aïe quoi ! Putain, je sais pas où tu tatoues, mais là ça fait hyper mal quoi. Tu m'as dit ouais, chouette, tu vas faire plein de couleurs, c'est parce que t'es sadique, t'aimes bien avoir les gens souffrir.
Non, j'aime bien les couleurs, c'est beau.
Oui, c'est beau, ouais. Ah ! Sérieux, il y a beaucoup de rouge en plus.
Voilà, si à votre tour vous envisagez de vous faire tatouer, bien cette étude dont nous allons parler va vous permettre de poser les bonnes questions à votre tatoueur. Des chercheurs démontrent donc que les nanoparticules contenues dans certaines encres colorées peuvent s'accumuler bien loin de la zone du tatouage. On en discute, Axel, avec notre invité, le physicien Rémi Tucoulou.
Bonjour Rémi Tucoulou.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur au synchrotron à Grenoble. Vous êtes le responsable d'une des deux lignes de lumière qui a servi à faire cette étude. Quelle a été votre plus grande surprise ? Est-ce que c'est le fait que ces particules voyagent dans le corps ou la présence de ces nanoparticules ?
Ah non, en fait, le fait qu'elles se propagent dans le corps, c'était quelque chose qui est déjà bien connu. Par contre, la surprise de cette étude, c'est de montrer qu'elles voyagent sous forme de nanoparticules. Et évidemment, le fait que ça soit des nanoparticules, ça pose question, notamment en termes de toxicité potentielle, puisqu'on sait que ces nanoparticules peuvent traverser les membranes cellulaires et donc se retrouver dans des régions qui sont potentiellement dangereuses pour ces particules. Voilà.
Comment est-ce que vous avez fait pour faire cette démonstration ? Vous avez travaillé avec des personnes tatouées ?
Alors en fait, on a prélevé des échantillons de tatouages et également de ganglions sur des personnes décédées. Donc c'est une étude post-mortem.
D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez trouvé des ganglions qui avaient pris la couleur du tatouage ?
Alors ça, en fait, c'est quelque chose qui est... C'est la partie, disons, connue de l'étude. C'est-à-dire qu'on sait que dans certains cas, le ganglion peut, à force d'accumuler des encres qui viennent des tatouages, se colorer comme le tatouage.
Et quels sont les composants principaux que vous avez retrouvés dans ces ganglions et qui posent problème, du coup ?
Alors, sous forme de nanoparticules, ce qu'on retrouve, c'est le fameux, disons, dioxyde de titane, qui existe aussi dans beaucoup de produits sous forme de nanoparticules et en contact du corps humain. Et donc, c'est celui-ci qui pose problème pour le moment.
Et à quoi sert ce dioxyde dans, justement, cette encre pour les tatouages ?
Alors, en fait, ça donne essentiellement la couleur blanche. Alors cette couleur blanche, elle est relativement peu utilisée telle quelle. Par contre, dans les tatouages, dès qu'on veut moduler une couleur, passer d'un rouge foncé à un rouge pâle, par exemple, à un rose, eh bien on va introduire ce dioxyde de titane. Et donc en fait, il est très présent dans les tatouages.
Et vous l'avez dit, on le retrouve aussi dans des crèmes, dans des bonbons, dans des cosmétiques. Comment vous êtes sûr que ce dioxyde de titane que vous retrouvez dans les ganglions est celui du tatouage ?
Alors en fait, pour s'assurer de sa provenance, on ne regarde pas seulement le dioxyde de titane, mais d'autres éléments qui sont liés, eux, aux pigments pour donner les couleurs rouge, vert, bleu. Et ce qu'on regarde, c'est une comparaison entre ce qu'on trouve dans le tatouage, ce qu'on trouve dans l'encre au départ, avant même qu'elle soit introduite dans le corps humain, et ce qu'on trouve dans les ganglions. Et on a une parfaite corrélation à ce niveau-là, ce qui permet d'affirmer que ce qu'on regarde dans le ganglion provient bien du tatouage.
Comment vous avez décidé, Rémi Tucoulou, de mener cette étude au départ ? Est-ce que c'était une demande des clients, des tatoueurs ? Les médecins, les chercheurs avaient des questions auxquelles il fallait répondre ? Comment ça s'est passé ?
Oui, alors ça c'est surtout l'équipe allemande qui a pris en charge et qui est à l'origine de cette étude. Et ce ne sont pas des médecins, mais voilà, ils sont à l'écoute des problèmes de santé. Ils savent que introduire dans le corps humain un élément étranger, bah, ça pose toujours question. Et donc ils ont décidé d'étudier un peu en détail ce phénomène des tatouages qui est quand même assez à la mode actuellement. Voilà, il y a un phénomène de surprise en fait sur cette découverte, même si pour le moment, en aucun cas, on peut parler de toxicité avérée.
Alors c'est ça. Ouais.
On ne parle que de risques potentiels et de rien d'autre.
Voilà, il faut être très clair sur le message sanitaire, évidemment à l'adresse de nos auditeurs, hein, parce qu'évidemment, on voit déjà les gros titres dans la presse qui commencent à arriver absolument partout, parce qu'il y a beaucoup de gens tatoués. Pour l'instant, il n'y a pas de danger avéré de ces nanoparticules, hein, on est d'accord ?
Ah bien sûr, bien sûr. Là, ce n'est qu'une première étape. Et maintenant, bon, évidemment, l'étude va continuer et on va essayer de regarder plus en détail, par exemple, sur des personnes qui ont des allergies avérées à certains composants des encres pour voir comment est-ce qu'elles réagissent par rapport à des clients sains, disons, pour essayer justement d'avancer et d'avoir des preuves ou pas de la potentielle toxicité de certains produits.
Mais vous avez des soupçons sur les effets délétères de ces nanoparticules ou pas ?
Je dirais des soupçons, mais qui sont comme tout un chacun, quoi. On sait très bien que les nanoparticules franchissent les barrières, les membranes cellulaires très facilement, et donc c'est un risque qui est potentiel et dont on peut se douter, mais sans aucune certitude actuellement,
quoi. On peut apporter une autre précision. Votre étude concerne seulement les encres colorées. D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet. Est-ce que toutes les encres colorées contiennent ces fameux dioxydes de titane ?
Ah ben non, par exemple, la couleur principale du tatouage, finalement, c'est le noir.
Oui.
Et là, par contre, là, il n'y a pas d'utilisation de ces nanoparticules de dioxyde de titane.
Mais ça veut dire que pour les personnes qui n'auraient que des tatouages noirs, est-ce qu'il y a moins d'occasions de s'inquiéter ou pas ?
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Est-ce que vous avez prévu déjà ou peut-être commencer de travailler avec des personnes qui sont vivantes et qui souffrent de problèmes ou d'allergies liées à leur tatouage ?
Oui, c'est ça. Ça, c'est en cours de. Voilà, disons que c'est l'étape d'après. Plutôt que de s'intéresser à des échantillons post-mortem, c'est de travailler avec des gens qui sont encore en vie pour, mais disons porteurs d'une certaine forme d'allergie, en les comparant à des gens qui ont des tatouages mais qui n'ont aucun problème, voir si on peut voir des différences sur justement les concentrations dans les ganglions pour essayer d'avancer sur cette thématique, quoi.
D'ailleurs, vous parliez des ganglions. Pourquoi vous avez ciblé spécifiquement les ganglions lymphatiques de cette personne morte ?
Ah bah parce que, disons que encore une fois, toute introduction d'un corps étranger dans le corps humain, il y a une réaction du corps et le corps veut essayer de s'en débarrasser d'une certaine manière et le système lymphatique est optimisé pour ça, quoi. C'est-à-dire que c'est une des façons d'évacuer des composants étrangers. Et le fait que ça soit stocké dans des ganglions sur des échantillons, donc encore une fois post-mortem, c'est-à-dire qui sont très anciens, enfin le tatouage est très ancien par rapport au moment où on fait l'étude, montre que ils sont probablement chargés de ces nanoparticules depuis très longtemps. Et donc ça forme une espèce d'exposition chronique dans le corps à des nanoparticules.
Et donc ce sont des bons indicateurs de la présence justement de ces nanomatériaux. Hein. Rémi Ducoulot, est-ce que des tatoueurs commencent à vous téléphoner ou pas, ou à vous appeler et à essayer de trouver des alternatives justement à ces pigments ?
Alors on n'a pas été contacté encore par des tatoueurs. Par contre, on a contacté des tatoueurs pour leur demander en gros leur recette de cuisine, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils font pour fabriquer leurs différentes couleurs. Et donc, alors c'est surtout des tatoueurs allemands ou en Thaïlande qui ont fourni leurs produits pour qu'on puisse travailler sur le produit de base avant même qu'il soit introduit dans le corps humain. Mais pour le moment, on n'a pas encore à la sortie de cette étude, on n'a pas encore de contact venant de tatoueurs qui voudraient en apprendre un peu plus sur cette étude.
Bon, en tout cas, ça semble nécessaire aujourd'hui de réagir pour pouvoir répondre au mieux aux clients qui ne manqueront pas, j'imagine, de poser beaucoup de questions dans les jours qui viennent suite à cette étude dont vous êtes l'un des co-auteurs, Rémi Ducoulot, avec cette équipe franco-allemande. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos précisions. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le venin des fourmis de feu qui offre une piste pour des traitements dermatologiques. Après des essais d'un mois sur des souris atteintes de psoriasis, les scientifiques montrent qu'une forme légèrement modifiée de la toxine contenue dans le venin de ces fourmis Solenopsis permet de réduire de moitié le nombre de cellules enflammées, surtout la gêne observée chez les rongeurs. Les chercheurs pensent que la molécule permet une régénération de la barrière immunitaire naturelle de la peau qui est peu à peu détruite par cette maladie auto-immune. Des essais sur des patients humains sont prévus pour bientôt. Des échantillons de sang ont été transportés sur plus de 250 km par drone. Ce record de distance pour l'acheminement médical d'urgence vient d'être battu par des chercheurs américains. Tout l'enjeu de cette démonstration publiée aujourd'hui était de conserver les fluides vitaux dans des conditions stables pour qu'ils puissent être analysés dès leur arrivée. C'est pour cette raison que le voyage s'est fait en plein soleil au-dessus du désert de l'Arizona. Un drone peut intervenir là où il n'y a ni route ni piste et permet d'obtenir des analyses précieuses pouvant sauver des vies dans des conditions extrêmes. Les chercheurs prédisent une utilisation grandissante des drones dans le domaine médical. Et puis enfin, Pluton, qui reçoit sa première cartographie officielle. L'Union Astronomique Internationale vient de publier les noms des 14 régions les plus emblématiques de la pseudo-planète. La plupart des choix ont été proposés par l'équipe de la sonde New Horizons, qui a survolé l'astre en juillet 2015, et qui rendent hommage aux grands scientifiques de l'histoire, de l'exploration de l'espace et de Pluton en particulier. On notera la plaine Sputnik et la Terra Voyager. D'autres noms devraient bientôt être choisis pour compléter cette carte, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission. Et les internautes sont invités à faire leurs propositions d'ailleurs sur le site de l'Union Astronomique.